la ferraille.
Fantôme du Hollywood Sign, la malédiction de la malédiction, le meurtre de William Desmond Taylor, la disparition de Louis le Prince, ce sont nos dossiers du jour dans le Bureau des Mystères.
Bonsoir, bienvenue dans le Bureau des Mystères, je suis Mathias, et cette semaine, encore une fois, Charles n'est pas avec nous, mais je reçois un invité aujourd'hui. Cet invité, c'est Simon Predge. Comment ça va, Simon ?
Ça va super bien, comment ça va, Mathias ?
Bah écoute, ça va super, je suis ravi de te recevoir. Est-ce que tu peux te présenter pour les rares auditeurs que l'on a qui ne te connaîtraient pas encore ?
Oh, les rares. Il y a toujours quelqu'un qui sait pas on est qui, là, voyons. Simon Predge, moi, en fait, je fais du podcast depuis quelques années. Je crois peut-être 3 ans et demi. J'ai lancé au départ le show Les Oubliettes, dans lequel on parle de cinéma de genre oublié, des films un peu délaissés par l'histoire du série B, du série Z, du nanar, mais aussi des bons films. Et c'est justement là le secret de mon deuxième podcast que j'ai lancé par la suite l'année dernière. Ars Moriendi, c'est qu'à la longue de raconter les histoires vraies derrière certains films d'horreur.
Moi, j'avais découvert ton émission parce que j'aime beaucoup les émissions, comme celles qu'on fait. Hein. On dit souvent qu'on fait l'émission qu'on aimerait écouter. Nous, quand on a lancé le Bureau des Mystères avec Charles, c'est parce qu'on voulait entendre ce genre d'émission. Et je me suis dit, il doit en exister en francophone. Et en fait, pas tant que ça. Finalement, j'étais tombé sur nos amis de Distorsion et j'étais tombé aussi sur Ars Moriendi. C'est un des premiers... je crois, une des premières émissions sur lesquelles j'étais tombé en dehors du Bureau des Mystères et de quelques autres choses que j'écoutais en France. Ça m'a fait très plaisir, et donc c'est pour ça que je suis ravi de te recevoir aujourd'hui dans cette émission-là, parce que tu fais partie des émissions que j'écoute, donc c'est hyper cool.
Ah, super.
Et si Simon est là, c'est pas uniquement parce que c'est un podcasteur de talent, c'est aussi parce que la thématique du jour le concerne, il vous l'a dit. Il s'occupe des Oubliettes, qui est une super émission. Si vous aimez Inspiré de Ferrel, je pense que vous aimerez les Oubliettes. Aujourd'hui, on a décidé, comme c'est un petit peu le Festival de Cannes, de se faire une spéciale cinéma. Donc on va traiter de 4 grands dossiers du cinéma. Et je te propose de commencer tout de suite, Simon. La disparition de Louis le Prince. C'est l'histoire d'un homme qui aurait pu être l'inventeur du cinéma. Bien avant Edison et les frères Lumière, Louis-Aimé Augustin le Prince devait présenter une machine révolutionnaire. Mais un jour de septembre 1890, il est monté dans un train et on ne l'a plus jamais revu. Alors cette histoire-là, Simon, en fait, on a décidé de parler de cinéma aujourd'hui, et là on va vraiment remonter aux origines, on est en fait au pré-cinéma, avant que le cinéma existe réellement. En fait, contrairement à ce qu'on pourrait penser, en tout cas nous en France, Auguste et Louis Lumière n'ont pas réalisé les premiers films du cinéma. En fait, l'histoire est un petit peu plus compliquée que ça. En fait, ils ont organisé les premières projections collectives de ce qu'on appelait les films photographiques sur grand écran. Donc, en gros, en simplifiant vraiment, on peut dire qu'ils ont inventé le cinéma, mais en tant qu'expérience sociale, en tant que quelque chose qu'on va faire ensemble.
Bien dit.
Et c'est pas tout. En fait, il y a eu aussi le film L'arroseur arrosé qui a été diffusé en 1895. Et avec ça, Louis Lumière, donc un des frères Lumière, aurait réalisé le premier film photographique de fiction. Donc voilà, selon certaines définitions, ce film-là pourrait être considéré comme le premier vrai film de cinéma. Donc selon certaines définitions. Et si on fait des raccourcis, on a vite fait de considérer que les frères Lumière sont bien les inventeurs du cinéma, mais c'est tout simplement faux. Parce que 4 ans plus tôt, c'est le 24 août 1891, Thomas Edison a fait breveter son kinétographe, qui permettait de faire des prises de vue. Et 2 ans plus tard, en 1893, il l'a combiné avec son kinétoscope, qui permettait de donner l'illusion de mouvement aux images et de les projeter. Et c'est ça, en fait, le dispositif le plus ancien de l'histoire du cinéma, ou presque. Parce que comme je vais le raconter ce soir, la naissance du cinéma comporte une histoire très très mystérieuse. C'est celle de la disparition de Louis le Prince en 1890, c'est-à-dire... moins d'un an avant l'invention de Thomas Edison.
Et j'ai bien hâte de t'entendre parce que si je connais bien l'histoire des frères Lumière et de Edison, le kinétographe, j'avoue que cette histoire, je ne la connais pas et j'ai bien hâte de t'entendre.
Eh bien écoute, je vais te parler de Louis-Aimé Augustin le Prince qui aurait pu être considéré comme le vrai inventeur du cinéma. Louis-Aimé Augustin le Prince, né le 28 août 1941 à Metz. C'est un passionné de photographie depuis sa plus tendre enfance. En fait, il s'initie à cet art-là très jeune avec Louis Daguerre, qui était un des pionniers de la discipline. Pour vous donner une idée de qui était Louis Daguerre, c'est lui qui a créé le daguerréotype, qui est en fait l'ancêtre de l'appareil photo. Donc on est vraiment sur des gens qui touchent leur bille en termes de photographie. Et après de brillantes études en peinture et en chimie, il se consacre pleinement à la photo, Louis le Prince, et il a une idée qui l'obsède, c'est la photographie mobile. En fait, dès 1881, c'est-à-dire 10 ans avant le brevet d'Edison, il met déjà au point un appareil photo à 16 objectifs qui permet de décomposer les mouvements, c'est-à-dire en capturant très très rapidement une succession d'images. Et le problème, c'est qu'il n'arrive pas à les assembler et à donner l'illusion du mouvement, ce qui va devenir plus tard en fait le cinéma. On est encore loin du cinéma, mais le principe qu'il utilise, ça s'appelle la chronophotographie, c'est ce qui va être plus tard à la base de la technologie du cinéma. En 1886, il met au point un nouvel appareil, le MK2, et cet appareil-là, il lui permet de réaliser un court-métrage muet de 2 secondes, qui est considéré comme l'un des premiers essais de film de l'histoire. Il n'aura jamais réussi à le rendre diffusable de son vivant, malheureusement, mais il a été depuis reproduit et du coup utilisé avec les moyens d'aujourd'hui. On peut le voir sur YouTube si ça vous intéresse. Ça s'appelle Une scène au jardin de Rondheim, et c'est donc voilà considéré comme un des premiers essais de film du cinéma. Mais pour inventer le premier dispositif du cinéma, il lui manquait une chose. C'est l'arrivée du film souple transparent en nitrate de cellulose. C'est très spécifique, mais c'est une invention qui est essentielle pour le cinéma et qui ne sera inventée qu'en 1888 par John Carbot, un Américain, et commercialisée à partir de 1889. Alors, est-ce que Louis le Prince a eu l'opportunité de se procurer ça? On ne le saura malheureusement pas, car il a disparu à tout jamais un an plus tard. Alors je vais venir maintenant sur cette mystérieuse disparition qui est source de nombreux fantasmes. En septembre 1890, Louis le Prince est sur le point d'entrer dans l'histoire. Son MK2 est breveté, et il s'apprête à aller faire breveter le projecteur qui va avec. Il compte ensuite faire la promotion de ses inventions à New York, mais cela ne se produira malheureusement pas. Peu avant son grand voyage, qui est censé le mener vers la gloire, Louis le Prince va voir de la famille à Bourges, puis va voir son frère à Dijon. Après 3 jours passés chez son frère, le 16 septembre, il monte à bord d'un train en direction de Paris. Mais quand le train arrive à la capitale, Louis le Prince a disparu et ses bagages avec lui. Aucune trace de l'inventeur dans les wagons. La police française et Scotland Yard mènent l'enquête, mais le mystère reste entier, on ne trouve ni son corps, ni ses bagages le long de la voie. Les recherches sont un échec total et personne ne sait ce qui s'est passé à bord de ce train. Au bout de 7 ans, la police a classé l'affaire et Louis le Prince a été officiellement déclaré mort en 1897. Alors que s'est-il passé sur cet inventeur de génie qui aurait pu révolutionner le cinéma, inventer le cinéma? Il y a plusieurs théories là-dessus, mais avant d'en venir aux théories, j'aimerais savoir ce que tu en penses.
Il y a tellement de choses qui pourraient être arrivées. D'abord, on connaît peu sur... Est-ce qu'on en sait beaucoup sur son histoire, son passé? Est-ce qu'il a été mêlé avec les mauvaises personnes? Est-ce que c'est peut-être juste une mauvaise altercation qui a eu lieu dans le train? Est-ce qu'il voulait disparaître? Il y a beaucoup, beaucoup de questions. J'ai surtout hâte en ce moment d'entendre les détails de sa vie qui pourraient nous donner des indices, en fait.
Alors, les détails de sa vie n'ont pas eu énormément, finalement, d'importance sur l'affaire en elle-même, à part sur une des théories à laquelle je vais venir assez rapidement. En fait, Louis le Prince, donc, c'était un Français qui s'était installé à Leeds en Angleterre, sa femme était anglaise, et il travaillait là-bas, et là, en fait, quand il rentre de chez son frère, il devait passer à Paris, puis à Leeds récupérer sa invention et partir ensuite breveter tout ça. Il se trouve que malheureusement, ce n'est pas arrivé, et il y a très peu d'éléments dans la vie privée de Louis le Prince qui permettent d'expliquer ce qui s'est passé. Louis le Prince, en plus, quand il était, on l'a vu monter à bord du train, sauf que les passagers du train ne se souviennent pas d'avoir vu quelque chose d'anormal ou d'inhabituel, donc on n'est pas sur une rixe, quelque chose qui aurait pu se passer, justement tomber sur les mauvaises personnes, a priori, ce serait pas ça.
Ok.
En fait, il y a 3 grandes théories autour de l'histoire de Louis le Prince. La première, c'est celle d'un fratricide. Tout simplement, c'est l'historien du cinéma Jean Mitry qui avait exposé cette théorie dans son livre Histoire du cinéma, qui était sorti en 1976. Il disait que Louis le Prince aurait pu se faire tuer par son frère Albert le Prince. Albert, c'est la dernière personne à l'avoir vu vivant, parce que je rappelle que Louis le Prince rentrait de chez son frère au moment où il est, voilà, quand il monte dans ce train et qu'il disparaît. Dans un article qui a été publié dans la revue Historia en 82, on apprend que Louis le Prince était allé voir son frère pour une raison bien précise, c'était pour régler des questions autour de l'héritage de leur mère. Albert le Prince n'aurait, selon cette théorie-là, encore une fois, pas voulu que son frère dépense des fortunes pour mettre au point son invention, et qu'il dilapide comme ça l'héritage de leur mère. Et ce serait à la suite d'une énième dispute qu'il l'aurait assassiné. Il y a un détail assez troublant qui corrobore cette théorie-là, c'est que Albert le Prince n'aurait pas déposé de main courante pour signaler la disparition de son frère, enfin en tout cas on n'a pas trouvé de traces de documents de Albert le Prince qui dit « mon frère a disparu ». Ça, c'est assez curieux.
Ah, c'est intéressant. Ouais, c'est intéressant, ça. Même malgré une chicane, même si ils se seraient disputés, il reste que c'est la famille. Donc, si un membre de notre famille disparaît ou décède, ben c'est sûr qu'on va en parler, c'est sûr qu'on va le rapporter à la police ou aux autorités. On va débuter au moins les procédures de funérailles pour l'enterrement s'il est décédé. Donc, malgré la dispute, c'est quand même très louche qu'il l'ait pas mentionné.
Il y a un autre élément qui corrobore cette théorie, c'est que c'était Albert Leprince qui disait que son frère avait pris le train. Mais quand on interrogeait les passagers du train, ils se souvenaient pas spécialement d'avoir vu passer Louis Leprince. Ce qui est assez curieux parce que physiquement, Louis Leprince était quelqu'un d'assez imposant, qu'on remarquait dans une foule, quoi. Et c'est assez bizarre que les autres passagers du train n'aient pas remarqué la stature de cet homme-là qui avait beaucoup de charisme en plus. Donc c'était surprenant qu'ils aient pas de souvenir de cette personne-là. Bon, ça c'est une des théories. Il y a une deuxième théorie qui est un petit peu proche de cette histoire d'argent, c'est celle d'un suicide. En fait, en 1928, le petit-fils d'Albert Leprince, donc le frère de Louis Leprince, son petit-fils a dit à l'historien Georges Potonier que Louis Leprince voulait se suicider car il était en réalité au bord de la faillite. Ça, c'est une théorie qui a été assez rapidement mise de côté par les historiens, mais en fait, selon les recherches de Georges Potonier, les affaires de Louis Leprince n'allaient pas si bien que ce qu'on pensait. C'était pas très rentable, et surtout, il n'était peut-être pas aussi fier de son invention que ce qu'on pensait. Peut-être qu'elle n'était pas tout simplement au point. Donc, si tu pars du principe que son invention était au point, qu'il allait révolutionner le cinéma, c'est vrai que techniquement, il n'avait pas de raison de se suicider en soi, parce qu'il allait faire l'histoire. Mais voilà, beaucoup d'historiens ont assuré qu'il n'avait plus assez de ressources pour poursuivre ses recherches et qu'il était très endetté, et qu'il avait peur de ne pas pouvoir proposer un prototype fiable lors de sa présentation à New York. En fait, il n'aurait pas trouvé la force d'avouer son échec à sa famille, et il se serait suicidé pendant le voyage. Mais ça n'explique pas la disparition de son corps et de ses bagages. Quelqu'un qui se suicide, normalement, on est censé retrouver le corps au moins le long des voies, puisque ça a été fouillé.
Il y a des exceptions à ça, mais c'est plus rare qu'on retrouve pas un suicidé. C'est arrivé dans l'histoire où on retrouvait la personne des fois 20 ans plus tard, mais c'est extrêmement rare qu'il soit parti en train, qu'il ait trouvé un bon endroit pour se cacher, pour passer à l'acte. C'est tout de même peu probable, quoique pas impossible.
À moins qu'il ait vraiment tout organisé à la perfection pour disparaître totalement et s'assurer que voilà, personne ne retrouve jamais son corps. Mais moi, il y a une variante à cette histoire, à cette théorie qui me plaît plus et qui correspond peut-être davantage à ce qui s'est passé. C'est qu'il aurait simplement disparu dans la nature et refait sa vie en changeant d'identité. Et ça expliquerait pourquoi lui a disparu et pourquoi ses bagages ont disparu en même temps. Genre voilà, se voyant acculé, sachant qu'il allait pas pouvoir réussir son grand projet et qu'il allait décevoir à ce point-là tous ses proches et sa famille, il aurait tout simplement voulu disparaître et changer de vie. C'est une théorie qui a pas mal d'adeptes, mais la théorie qui fonctionne le plus, la théorie qui a le plus d'adeptes sur Atwell, c'est celle selon laquelle il aurait été assassiné par Edison. Thomas Edison aurait commandité son meurtre. Alors, rien, absolument rien ne permet de le prouver, je le précise, mais c'est la femme de Louis Leprince qui était persuadée que son mari avait été exécuté avant de pouvoir présenter ses inventions par des rivaux. Et son principal rival à l'époque, c'était Thomas Edison, qui était, je le rappelle, sur le point de développer son kinétographe et son kinétoscope surtout. Et il se serait assuré, comme ça, en éliminant Louis Leprince, de devenir le père du cinéma. Voilà, et plus de concurrents français. Alors, cette théorie-là, même si elle est digne d'un bon thriller, d'un bon film, elle n'a pas été avérée. Beaucoup d'historiens du cinéma ont rappelé qu'en 1890, Edison était déjà sur la dernière ligne droite, et qu'il prêtait vraiment plus attention du tout aux recherches des autres inventeurs. Même si Edison est connu, et ça c'est vrai, pour avoir eu des méthodes assez brutales dans l'histoire et s'être plusieurs fois accaparé le travail des autres, son implication dans un possible meurtre d'un inventeur français est quand même assez invraisemblable, puisque l'invention de Louis Leprince n'était pas totalement au point, et il n'avait pas les moyens financiers ni les moyens industriels de concurrencer un businessman comme Thomas Edison. Donc voilà, il n'y avait pas de raison assez grande pour que Thomas Edison aille jusqu'à commanditer son assassinat. Moi j'ai du mal à croire à cette théorie, mais elle a énormément d'adeptes.
Moi aussi. J'ai de la misère à croire que quelqu'un dont l'invention, on le sait, était suffisamment avancé, aurait tenté du moins un meurtre pour s'approprier des idées. Parce que techniquement, ce serait ça, c'est tuer pour s'approprier des idées là, à la base. Là. Je pense pas, de ce que tu sembles raconter, que Louis ait été en position suffisamment importante aux yeux d'Edison pour qu'on ait envie de l'assassiner pour ça, j'y crois pas tellement. J'aurais plus tendance à croire soit une disparition volontaire, peut-être pas nécessairement le suicide, là, mais peut-être plus une disparition volontaire, et je vais y revenir, ou un meurtre peut-être pour des motifs d'héritage.
Bon, en tout cas, celle qui me court, celle en laquelle je crois le plus, c'est effectivement celle de la disparition volontaire et de ne pas assumer auprès de sa famille que son invention n'était pas au point et qu'il n'allait pas révolutionner comme il le voulait l'histoire du pré-cinéma et du cinéma. Mais malgré tout ça, le degré de mystère reste aujourd'hui extrêmement élevé, parce que toutes ces théories ne sont finalement que des suppositions, et les preuves, et je mets des guillemets à preuves, sur lesquelles ils se basent sont souvent partielles et très peu documentées, parce que ça se passe quand même il y a très longtemps cette histoire, et comme il est un peu tombé dans l'oubli, c'est très compliqué d'avoir des preuves formelles de ce qui s'est exactement passé. Donc toutes les théories se reposent vraiment sur des suppositions, c'est des déductions logiques, tout ce que j'ai dit jusque-là. Donc le degré de mystère pour nous est extrêmement élevé, et je pense qu'il le restera à jamais, c'est un des plus grands mystères de l'histoire du cinéma, à mes yeux. Donc nous, dans le bureau des mystères, on a l'habitude de classer ou non les affaires, celle-là restera, je pense malheureusement, à jamais non classée.
Le meurtre de William Desmond Taylor. On est en 1922, à l'époque du cinéma muet, on retrouve la dépouille de William Desmond Taylor dans son salon. Sur le coup, on ne sait pas trop ce qui s'est passé, et en retournant le corps, on découvre qu'il a été tiré, donc il est mort par balle, et énormément de suspects donc, dans cette histoire. C'est très difficile, c'est un cas qui est aujourd'hui non résolu, on ne saura probablement jamais ce qui est arrivé. Mais voici comment ça s'est passé. Le 1er février 1922, durant une nuit particulièrement froide pour Los Angeles, William Desmond Taylor prend un verre en compagnie de l'actrice de cinéma muet Mabel Normand. Vers 19h45, il l'accompagne jusqu'à sa voiture en laissant la porte de sa maison déverrouillée. Mis à part le meurtrier, Mabel est la dernière personne à avoir vu William vivant. Il revient chez lui donc, et c'est à 20h qu'un tir d'arme à feu résonne dans le voisinage. Sur le coup, on ignore encore que c'est un coup de feu. Faith McLean, alors une de ses voisines, voit à sa fenêtre et va voir un homme sombre et mystérieux en manteau long noir, avec un collet relevé, un chapeau cachant ses yeux, devant la maison de William Desmond Taylor. Il voit alors que l'homme en question voit McLean qui le fixe par la fenêtre et mine de rien va retourner à l'intérieur comme s'il avait oublié quelque chose. Elle racontera plus tard que la personne avait une démarche très féminine et paraissait très étrange. Une autre femme du quartier a aussi témoigné avoir vu le sombre personnage après avoir entendu le coup de feu. Sur le coup, on croit que le bruit vient du pot d'échappement d'une voiture, un espèce de retour de flamme. Par la suite, le calme est revenu sur la rue Alvarado jusqu'à 7h30 le lendemain matin, alors que l'homme à tout faire de William, Henry Peavy, arrive sur les lieux pour sa journée de travail. Il va découvrir la dépouille de William sur le sol du salon. Sa réaction est de hurler au meurtre en courant à l'extérieur de la maison en appelant l'aide. Étrangement, ce sont les studios Paramount qui sont appelés avant la police, et c'est là que le mystère commence. Les premiers sur les lieux, donc, sont des représentants des studios Paramount pour lesquels William travaille. Ils font un ménage, ils saisissent une pile de lettres et des bouteilles d'alcool de contrebande. Là, je vous rappelle que nous sommes en période de prohibition et l'alcool est interdit. Ils demandent aussi à Peavy, l'homme à tout faire, de nettoyer l'appartement et en particulier le sang dans le salon. Pour bien comprendre cette décision intrigante des studios, parce que c'est quand même particulier, il faut comprendre que le cinéma et Hollywood étaient en péril à cette époque. L'industrie, encore toute jeune, était mal vue suite à plusieurs scandales reliés aux drogues, l'alcool, le sexe et même une histoire de viol et de meurtre pour lesquels l'acteur muet Roscoe Fatty Arbuckle a finalement été acquitté après 3 procès. Donc, des organisations de femmes et d'organisations religieuses menaçaient de boycotter les films et donc Donc, c'est une histoire assez complexe. Pour en savoir plus sur l'évolution de la censure au cinéma, je vous invite à écouter Les Oubliettes. J'en ai fait une heure et demie toute l'histoire. On repartira pas là-dessus aujourd'hui. Toutefois, c'est très intéressant. Ça nous aide à comprendre un peu le milieu de l'époque.
On vous mettra le lien on vous mettra le lien d'ailleurs sur Riviera Ferraille pour que vous puissiez aller écouter cette émission qui est c'est un sujet assez passionnant, la censure à Hollywood à cette époque-là.
À l'arrivée de la police de Los Angeles, donc la scène de crime avait été gravement compromise. Mais qui est William Desmond Taylor? En résumé, il est parmi les plus prolifiques réalisateurs et acteurs irlandais de son temps aux États-Unis. Il réalisa une soixantaine de longs métrages et y a joué dans au moins 27 films. Il a travaillé avec plusieurs grands noms du cinéma muet. Mais retour au meurtre maintenant qui a eu lieu en 1922. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va traverser la liste des suspects ensemble parce qu'elle est longue. Je l'ai pas dit encore, mais en fait, j'ai résumé parce qu'il y a énormément de théories. J'ai gardé aujourd'hui seulement les plus importantes, sinon on aurait eu pour la journée.
Mais là encore, on est sur un des dossiers les plus épineux de l'histoire du cinéma. Il y a tellement de théories, tellement de détails dans tous les sens. On aurait pu vous faire une émission d'une heure là-dessus, mais on s'est dit qu'on allait résumer cette fois.
Voilà, résumons les principaux suspects. Donc, tout d'abord, Mabel Norman, donc la dernière personne à l'avoir vue vivant. Elle n'a jamais été un suspect sérieux dans cette affaire, malgré qu'elle soit retournée à la maison de William pour mettre la main sur une pile de lettres. Elle a déclaré aux autorités que, selon elle, ces lettres ne signifiaient rien d'important pour personne, mais elle avait peur que ça tombe dans des mauvaises mains et qu'elles soient mal interprétées. Toutefois, il existe une théorie selon laquelle la mort de William pourrait être reliée à ses efforts pour aider Mabel à se sortir de l'enfer de la drogue. Mabel est une consommatrice accro de cocaïne et d'opium, et William l'a aidée à se faire une place dans un centre de désintoxication. Elle est d'ailleurs la première actrice à entrer dans un centre de désintoxication de l'histoire. Donc, William tentait d'éloigner les vendeurs de drogue de son entourage, mais aussi des studios et des acteurs. Il dirigeait même une commission anti-drogue à Hollywood, dont il était le président du CA. Il paraît que Mabel dépensait jusqu'à 2 000 $ par mois en drogue et en médicaments. 2 000 $ en 1920, c'est beaucoup d'argent. Donc, en d'autres mots, William a joué dans les plates-bandes des revendeurs de drogue, ce qui est risqué encore aujourd'hui. Donc, la théorie avance qu'un tueur à gages aurait pu être engagé pour l'éliminer, mais bien sûr, ça n'a jamais été prouvé. Mabel Norman décède finalement en 1930 de la tuberculose et l'une de ses dernières paroles furent « Je me demande qui a tué le pauvre William ». Deuxième suspect, on a Mary Miles Minter. Donc, cette actrice blonde adorait William. Elle n'a que 20 ans lors du meurtre, toutefois, de William. Elle lui écrit souvent des lettres lui déclarant son amour éternel. Certaines ont été rendues publiques durant l'enquête et on constate qu'elles sont écrites de manière d'une jeune écolière un peu. Elle semble toute innocente. Toutefois, on ignore si Paramount a caché de ces fameuses lettres qu'il aurait prises à la scène de crime et on les aurait jamais retrouvées. Même des années après le meurtre, elle parle de William comme s'il était son amoureux, prétendant qu'il se fréquentait, mais c'est faux. Il y a un mouchoir brodé avec les initiales MMM qui pourrait s'accorder à Mary Miles Minter et une chemise de nuit rose de femme qui ont été trouvées chez William. Nombreux sont ceux qui prétendent qu'ils ont appartenu à Mary, mais la chemise de nuit n'avait aucune identification, donc on l'ignore en réalité. Il est vrai que Mary a visité William souvent à sa résidence. Elle attendait que sa mère soit endormie pour sortir par la fenêtre et aller lui rendre visite durant la nuit. Donc, sa mère, Charlotte Shelby, la surveillait de très près. Elle était la plus despotique des mères poules. Mary aurait tenté à plusieurs reprises de séduire William, mais il lui aurait fait comprendre avec gentillesse qu'il était assez vieux pour être son père, qu'il n'était pas intéressé. Il a d'ailleurs parlé de ce problème avec quelques amis proches en mentionnant qu'il ne savait pas quoi faire avec elle. Elle pouvait débarquer chez lui à 3 h du matin en le menaçant de hurler et de faire une scène s'il ne lui permettait pas de rester. Donc William voulait éviter ça. Il avait beaucoup d'amis dans le voisinage et voulait éviter le potinage. Donc il commençait à être très inquiet et ignorait comment se débarrasser d'elle. Lorsqu'interrogée, elle a nié avoir été chez William ce soir-là, le soir du meurtre, mais on a pu prouver le contraire. Trois cheveux blonds ont été trouvés sur le veston de William, des cheveux ayant appartenu à Mary. Sauf que William était très méticuleux avec ses vêtements. Il y brossait ses habits chaque matin avant de sortir de chez lui. Il était très, très propre de sa personne. Donc, elle aurait finalement admis l'avoir croisé dans la journée et lui avoir fait un câlin. C'est pourquoi il y aurait eu des cheveux sur le veston de William. Mais plusieurs versions de l'histoire ont ressorti et au final, on se retrouve avec une zone grise dans le cas de leur rencontre le jour du meurtre. L'enquête a démontré que William a été tiré à bout portant alors qu'il avait le bras gauche levé comme s'il était dans une étreinte, hein, comme s'il serrait quelqu'un dans ses bras, si on veut. Le coupable n'aurait pas mesuré plus de 5 pieds et des poussières, donc on comprend que, en fait, c'est un peu toutes les femmes dans cette histoire-là. Tous les suspects sont à peu près de cette grandeur-là. Donc, c'est difficile à dire que ce serait Mary plus qu'une autre. Et c'est aussi, je veux juste faire remarquer que c'est une drôle de manière de tuer quelqu'un avec une arme à feu pendant qu'on lui fait un câlin en tirant dans son dos.
Parce
là.
Que c'est, imaginez c'est prendre que, vous le risque quelqu'un... que la balle nous rentre dedans. Pas. C'est prendre le risque de
exactement.
Se tirer dessus accidentellement. Parce que la balle peut traverser le corps de la victime et nous rentrer dedans après. C'est extrêmement curieux.
Exactement. Donc, il y aurait moyen de le faire en se tassant la dernière minute ou en le prenant dans un certain angle, mais bref, ça fait peu de sens. On a de la misère à comprendre comment c'est arrivé en réalité. Ce qui m'amène à la prochaine suspecte, donc Charlotte Shelby, la mère de Mary Miles Minter, un personnage assez particulier. La théorie est que Charlotte serait allée chez William le soir du meurtre et en constatant que sa fille Mary s'y trouvait, elle aurait tiré sur lui. Je sais que ça a l'air un peu tiré par les cheveux, mais Charlotte était extrêmement possessive de sa fille Mary. Je dirais même que c'est un euphémisme. Selon l'histoire, on raconte que Charlotte aurait rêvé de faire de la scène, du théâtre, mais qu'elle n'avait pas le talent. Elle aurait plutôt vécu son rêve par procuration à travers sa fille, qui agissait vraiment comme un enfant et non comme un adulte. Donc Charlotte aurait voulu protéger son investissement à tout prix. Charlotte a un historique de menaces armées aussi. À plusieurs reprises, elle aurait menacé des hommes qui s'approchaient trop de Mary ou quand elle trouvait Mary dans les bras d'un homme. En pointant son revolver de calibre 38, elle devenait complètement folle et s'emparait de sa fille pour la ramener à la maison. Tous les hommes qui s'intéressaient à Mary ou pour lesquels Mary avait le béguin, donc devenaient vite la cible des colères de Charlotte. Elle a déjà menacé William dans son bureau peu de temps avant le jour du meurtre en lui criant que s'il s'approchait encore une fois de Mary, elle lui ferait exploser la cervelle. Je pense que c'était une type de femme un peu explosive, peut-être colérique, qui disait à tout le monde qu'elle rencontrait « Je vais te tuer. » Est-ce que ça veut dire qu'elle allait passer un jour à l'acte? Là, c'est différent des fois, hein? Et finalement, il y a un seul autre suspect que j'ai gardé pour cette histoire. C'est une histoire quand même, une anecdote assez intéressante. C'est-à-dire que le biographe le plus important de William Desmond Taylor a reçu en 1996 un courriel particulièrement mystérieux signé Ray Long. Ray avait été le voisin d'une vieille dame récluse qui ne sortait jamais. Elle faisait même livrer son épicerie chez elle. Et cette femme qu'il connaissait sous le nom de Pat Lewis était veuve et amie de sa mère. Un jour de 1964, la femme, maintenant convertie au catholicisme, fait une crise cardiaque et demande à un prêtre pour se confesser avant de mourir. Malheureusement, il n'y avait aucun prêtre disponible, alors elle a commencé malgré tout sa confession sur son lit de mort en déclarant qu'elle avait déjà été une actrice de cinéma muet et que c'est elle qui a tué William Desmond Taylor. Mais qui est cette Pat Lewis, me direz-vous? En fait, elle est l'actrice de cinéma muet Margaret Gibson. Les deux sont la même personne. Du temps où elle était actrice, Margaret aurait eu des problèmes avec les autorités dues à sa consommation d'opium en 1917. Elle travaillait alors pas uniquement comme actrice, mais aussi dans un bordel comme prostituée. Elle a été acquittée parce qu'elle s'est défendue en cour en prétendant que la prostitution et la drogue étaient dans le but de mieux connaître le milieu pour un rôle au cinéma. C'est un gros mensonge, mais ça a fonctionné. Après l'incident, elle a changé de nom pour Patricia Palmer. Et en novembre 1923, elle est arrêtée une seconde fois sous des accusations impliquant du chantage et de l'extorsion. Là, qu'on commence à approcher d'une anecdote intéressante. Toutefois, les accusations ont finalement été abandonnées par le procureur. Margaret Gibson a effectivement travaillé avec William avant la Première Guerre mondiale. Ils ont travaillé ensemble au théâtre de Denver en 1910, puis ensuite à Hollywood. Toutefois, mis à part le fait qu'ils ont travaillé ensemble des années avant le meurtre, rien ne relie les deux ensemble. On n'a rien trouvé. Tout ce qu'on a, c'est des preuves que Margaret Gibson et ou Patricia Palmer a travaillé pour Paramount en 1921. Donc, sans l'ombre d'un doute, elle aurait souvent croisé William. Est-ce possible que Margaret a elle aussi eu une obsession pour William, comme Mary Miles Minter? Est-ce qu'elle fait partie d'un groupe ayant fait chanter William? T'sais, si on prend en considération ses précédentes arrestations pour possession de drogue et extorsion, ça pourrait être une possibilité. Certaines spéculations prétendent que William aurait pu être bisexuel et comme c'était très mal vu à l'époque, si ça s'était su, sa carrière aurait donc été ruinée. Donc si les allégations sont vraies, il est possible que ça ait été les motifs du chantage. Donc en conclusion, c'est difficile de se faire une idée sur les responsables du meurtre. Le cas donc n'a jamais été résolu. T'en penses quoi, Mathias?
Bah, écoute... Moi, le dénominateur commun que je trouve dans quasiment toutes les théories et tous les suspects que tu as énoncés, c'est souvent la drogue. Et tu le disais, il était dans un conseil, en tout cas, pour éliminer la drogue à Hollywood. Et je pense qu'à cette époque tout particulièrement, ça devait pas être apprécié par tout le monde, ce genre de choses. Donc moi, si j'avais une théorie là-dedans, je pense que ce serait lié au trafic de drogue. Parce que c'était pas juste quelqu'un qui prenait position contre la drogue à Hollywood, c'était quelqu'un qui faisait partie de conseils, de commissions contre la drogue, qui essayait de sortir une des actrices célèbres de l'époque qui était accro à la drogue. S'il avait réussi à lui faire décrocher, ça aurait été médiatisé, donc ça aurait été un symbole que Hollywood peut sortir de la drogue. Donc, pour moi, la solution à cette énigme-là, elle est allée à chercher du côté des trafiquants de drogue de Los Angeles de l'époque. Après, il y a des éléments curieux.
Qui prenait beaucoup de place à l'époque aussi.
Oui.
Qui était très présent à l'époque. Donc, il faut comprendre l'aspect que ces hommes-là, les trafiquants de drogue, étaient partout à l'époque et c'était nouveau. Hein? C'est la période aussi où même l'alcool était interdit. Donc, c'est une période particulière.
Et puis surtout, la pègre avait des liens avec les studios également et ça m'amène à un truc très troublant. C'est comme tu le disais, ils ont prévenu Paramount en premier. Il y a des exécutifs des studios qui sont venus et qui ont nettoyé la scène de crime, qui ont peut-être même, c'était une des théories que j'avais vues, placé des choses chez William Desmond Taylor pour orienter l'enquête vers des fausses pistes. Donc justement,
comme la jaquette de nuit rose qu'on a retrouvée dans son tiroir.
Ou la robe de chambre, etc. Là. Oui, voilà.
Et voilà.
Tout ça, c'est des éléments qui sont très troublants. Donc voilà, si on pouvait partir sur une théorie, moi en tout cas, celle à laquelle je crois le plus, c'est la pègre qui était très liée au studio et qui ont... Voilà, il fallait se débarrasser de ce mec-là. Et ça a été couvert par les studios et la police, quand elle est arrivée, il n'y avait plus d'éléments qui permettaient de mener l'enquête convenablement. Et après, toutes ces histoires, effectivement, avec les femmes qui tournaient autour de William Desmond Taylor, c'était plus des choses qui alimentaient, je pense, la presse à scandale de l'époque. Et voilà, on était à un moment où Hollywood commençait vraiment énormément à alimenter la presse à scandale. Et il fallait faire tourner la machine. Donc, je pense que tout ça, voilà, il y a eu énormément de détails sur ces théories-là, parce que ça devait faire vendre du papier à l'époque. Écoute, Sylvain, j'ai l'impression que malgré toutes les théories qu'on a, c'est très très compliqué de classer cette affaire-là. En tout cas, nous, c'est une affaire qui, à mon avis, restera encore une fois en suspens. La malédiction de la malédiction. Plusieurs films d'horreur ont la réputation d'être maudits, mais aucun n'a été au centre d'autant d'événements étranges que La Malédiction, sorti en 1976. Alors accrochez vos ceintures parce que la liste est longue. Avant de venir sur le film en lui-même, quand on pense quand je vous dis film maudit, souvent vous pensez à des choses comme L'Exorciste ou à Poltergeist. Alors pour L'Exorciste, je vous renvoie au numéro d'Inspiré de Ferrel qu'on avait réalisé avec Charles, où on parlait notamment des faits étranges qui seraient survenus sur le tournage et en marge du tournage. Et pour Poltergeist, autant vous le dire tout de suite, la malédiction est totalement infondée. Oui, des stars de la saga Poltergeist sont mortes. Hein. L'actrice principale du premier film, Dominic Dunn, a bien été assassinée par son compagnon en 1982, c'est-à-dire un an après la sortie du film. Julian Beck est mort en 1985, au moment où la production de Poltergeist 2 a commencé. Et oui, et ça c'est peut-être le plus connu, l'actrice de 12 ans, Heather O'Rourke, est bien morte d'une infection. Mais c'était juste avant la sortie de Poltergeist 3, mais ça s'explique parce qu'elle avait la maladie de Crohn, malheureusement. Et voilà, en fait, il y a eu plusieurs morts autour des films, mais toutes étaient explicables par des maladies, ou, comme c'est le cas pour Dominique Dunn, par un compagnon violent. Au début, en fait, moi, je voulais vous parler de la malédiction de Poltergeist, parce qu'elle est assez connue. Mais en fait, je voulais le faire pour débunker la légende, principalement, parce que, comme je viens de vous le dire, tout est faux dans cette histoire de malédiction autour de la saga Poltergeist. Et en faisant mes recherches, je suis tombé sur une autre malédiction qui est peut-être encore plus effrayante et qui est un peu plus troublante. C'est celle de The Omen, La Malédiction, en France. Alors, La Malédiction, c'est un film d'horreur qui est sorti en 1976, réalisé par Richard Donner, où dedans on suit le drame d'un père de famille qui est incarné par Gregory Peck, réalise que Damien, son fils de 5 ans, est l'Antéchrist. Peut-être que vous avez vu ce film. Ce film-là est entré... Un très bon film, que tu pourras confirmer. Moi, je ne l'ai pas vu, étonnamment. Je sais pas.
Ah, l'original ? Tu n'as pas vu l'original ?
Non, non, non. Et j'en ai entendu beaucoup de bien. Donc, tu me confirmes.
Je le suggère
bien.
Fortement. Ce n'est pas un type de film horreur gore ou à faire peur la nuit. Là. On parle d'un film d'horreur plus psychologique, plus dramatique, qui se rapproche beaucoup plus de Le bébé de Rosemary, par exemple, où c'est une lente descente aux enfers. Mais c'est un film très intelligent et très, très, très bon pour son époque. Je le suggère fortement.
D'accord, bah en fait, en dehors du film, parce que là on va parler de ce qui s'est passé autour, c'est vrai que la malédiction s'est entourée d'une brume de mystère assez épaisse, parce qu'il y a beaucoup d'accidents qui ont émaillé la production, le tournage et la post-production. Donc à toutes les étapes du film, il s'est passé des choses. 30 ans après, d'ailleurs, le producteur Harvey Bernard reste persuadé qu'il s'est passé des choses étranges pendant le film, et voici ce qu'il a déclaré dans le Herald écossais, je le cite. Le diable faisait son œuvre et ne voulait pas que nous fassions ce film. Nous étions en eau trouble et cela n'a fait qu'empirer. Harvey Bernard, lui, portait une croix sur le tournage, juste au cas où. Et il faut dire que s'il portait cette croix et qu'il avait autant d'intuition autour du tournage, c'est parce qu'il avait été prévenu par son ami Bob Munger, qui est l'homme qui a eu l'idée du film. Et lui aussi a été contacté par le Herald écossais et voilà ce qu'il a dit. J'ai prévenu Harvey à l'époque, je lui ai dit « si tu fais ce film, tu vas avoir de sérieux problèmes ». La plus grande puissance du diable, c'est d'être invisible, et si tu lui enlèves cette invisibilité en l'exposant devant des millions de personnes, il fera en sorte de t'en empêcher. Fin de citation. Donc voilà, mais ça a commencé même avant le tournage. C'est ça qui commence déjà à donner quelques frissons. Gregory Peck, qui joue le personnage principal du film, a vécu un drame familial à 2 mois du début du tournage. En juin 1975, son fils aîné, Jonathan, 31 ans, s'est tiré une balle dans la tête. C'est un moment extrêmement difficile à vivre pour Gregory Peck, la perte d'un enfant c'est toujours atroce. Et ce qui était d'autant plus atroce, c'est que son personnage devait littéralement tuer son fils dans le film. Donc là on est dans une mise en abîme qui est, on l'imagine, horrible pour un acteur. En septembre 75, il prend quand même l'avion pour aller démarrer le tournage. Et alors qu'il survole l'océan Atlantique, son avion est subitement frappé par la foudre. Alors heureusement, plus de peur que de mal, l'avion ne s'est pas crashé, mais ce qui est curieux, c'est que quelques semaines plus tard, le producteur exécutif Mace Neufeld prend à son tour l'avion, et que le sien aussi échappe de peu à la foudre. Malgré ces incidents-là, le tournage commence à Londres. Sauf qu'à cette époque, à Londres, l'IRA, c'est-à-dire les indépendantistes irlandais, commettent des attentats. Et justement, l'hôtel dans lequel Mace Neufeld réside avec sa femme subit une attaque à la bombe. Là encore, pas de blessés. Et c'est là que c'est encore plus troublant, d'autres producteurs du film et l'acteur principal Gregory Peck devaient dîner au restaurant de cet hôtel le même jour. Alors Gregory Peck, l'acteur principal, n'avait décidément pas de chance, ou beaucoup de chance, c'est suivant comment on voit les choses, parce qu'après avoir tourné des scènes en Israël, il devait regagner les États-Unis à bord d'un jet privé qui avait été loué spécialement pour l'occasion, sauf qu'ils ont dû annuler au dernier moment son vol, et donc l'avion a finalement pris 5 businessmen asiatiques, et l'avion s'est crashé. Et tous les passagers et les personnels d'équipage ont été tués sur le coup. Il y a eu un autre drame similaire sur le tournage. Un avion a été loué pour faire des photographies aériennes, voilà, pour des plans du film. La production a finalement annulé sa réservation, et peu de temps après, cet avion-là a été victime d'un crash qui n'a laissé encore une fois aucun survivant. Alors oui, ça fait beaucoup d'histoires d'avions, surtout qu'il y en a encore une autre. Richard Donner, le réalisateur, raconte dans le making-of du film... qu'un avion qu'il devait utiliser pour une scène s'est écrasé le jour même. En fait, il a été pris dans une nuée d'oiseaux, et il s'est écrasé sur une voiture. Et dans cette voiture, il y avait la femme et les 2 enfants du pilote d'avion. Ça commence à faire beaucoup. Il y a aussi un autre passage dans le film, c'est une séquence dans la réserve africaine. Il y a un passage qui a été tourné avec un lion dans le Windsor Safari Park, donc c'est un zoo qui existait à l'époque, mais qui a fermé en 92, donc Cherchez plus Zozo, il n'existe plus. Et cherchez pas la scène non plus, d'ailleurs dans le film, puisqu'elle a été finalement coupée au montage. Mais peu après le tournage, c'est ça qui est également inquiétant, deux lions se sont jetés sur un des gardiens du zoo, qui était âgé de seulement une vingtaine d'années, et ils l'ont tué. Et c'est pas le seul problème qu'il y a eu avec des animaux sur le tournage de ce film, qu'est-ce que le cascadeur qui prenait la place de Gregory Peck dans une des scènes, la scène où il se fait attaquer par des Rottweilers, je sais pas si tu vois laquelle je parle, Simon.
Je me souviens.
Et bien le cascadeur a été assez sévèrement blessé par les Rottweilers. Les chiens ont réussi à le mordre à travers ses équipements de protection, ce qui arrive extrêmement rarement sur ce genre de cascade où on prend ses précautions. Alors ça, c'est ce qui s'est passé pendant le film, ce qui s'est passé avant le film, et après le film aussi, il s'est passé des choses. Le vendredi 13 août 1976, ça ne s'invente pas, aux Pays-Bas, un terrible accident a eu lieu. L'ancien responsable des effets visuels de La Malédiction, qui s'appelle John Richardson, travaillait à ce moment-là avec sa compagne, qui est également son assistante, sur le film de guerre Un pont trop loin. Ils ont été victimes d'un accident de voiture particulièrement atroce, causé par un camion. Et lors du choc, Liz Moore, donc la compagne de John Richardson, a été coupée en deux par les roues avant de la voiture, elle a été décapitée. Un détail qui est quand même très inquiétant quand on sait que John Richardson, il avait justement supervisé la scène de la décapitation dans La Malédiction. Et ça, c'est un petit détail qui en dit long également et qui n'a pas été vérifié, je le précise. On dit également que l'accident se serait produit à très précisément 66,6 km d'une ville qui s'appelle Omen, comme dans The Omen, le nom du film. Un petit détail que je trouve assez savoureux.
Ouais, effectivement.
Mais bon, ça, voilà, c'est très difficilement vérifiable. Il y a carrément la légende qui dit que le mec serait sorti des débris de la carcasse de la voiture et qu'il aurait vu le tableau, le panneau qui annonçait 66,6 km de Omen. Sauf que aucun panneau routier n'annonce aussi précisément une distance de ville.
Ben non.
Donc voilà, ben non. Ce n'est pas possible.
Ça fait partie de la légende.
C'est ça. Alors, maintenant, je vais revenir à un documentaire consacré à La Malédiction qui est sorti en 2005 sur Channel 4, où on apprend qu'un des cascadeurs, Alf Joint, un des cascadeurs de La Malédiction, a aussi travaillé sur Un pont trop loin, le même film, et alors qu'il devait sauter d'un toit pour atterrir sur une structure gonflable, il a sauté d'une manière inhabituelle et a été sévèrement blessé. Et quand il s'est réveillé à l'hôpital, il a assuré à tout le monde que quelque chose l'avait poussé. C'est ainsi que se termine, avec ce petit dernier frisson, la longue liste des accidents et des faits étranges qu'il y a eu autour de La Malédiction. Alors, y a-t-il réellement une malédiction ou non? Pour Richard Donner, le réalisateur, c'est juste une série de coïncidences incroyables, mais pas une malédiction. Mais il admet que lui et d'autres personnes ont fait semblant de croire à une malédiction pour la promotion du film, et que certains ont fini par se persuader que c'était vraiment arrivé. Alors, qu'est-ce que t'en penses, Simon?
Ben... Déjà, on va mettre un point au clair dès le départ. Là. C'est quelque chose que j'ai déjà mentionné dans le cadre d'Ars Moriendi. C'est que le cerveau humain a cette fâcheuse tendance à chercher du sens parfois à des endroits où il n'y en a aucun. On a tendance à... Un peu comme... Je pense que c'est même comme ça que je l'avais dit dans Ars Moriendi, c'est-à-dire un peu comme quand on regarde les nuages et qu'on s'imagine qu'il y a des animaux. À travers les nuages. C'est une drôle de façon de l'expliquer, mais c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'on regarde quelque chose qui n'a aucun sens, qui est abstrait, et on va lui accorder quelque chose qui, pour nous, fait du sens et qui explique si, ceci ou cela. T'sais. Donc, déjà, à la base, faut prendre les légendes à la légère. Tu as mentionné toi-même que même l'équipe ne voulait pas croire au diable, que c'était beaucoup dans un contexte promotionnel pour vendre le film, comme l'annonce que la ville était à 6,66 miles de distance. Il n'y a aucune pancarte comme ça, ça n'existe pas. Donc, faut en prendre et en laisser. Après ça, il nous reste qu'il y a quand même beaucoup de ces événements-là qui sont arrivés. Le hasard, des fois, fait des choses incroyables. Hein? Le destin, appelez ça comme vous voulez, c'est fort, c'est très fort le hasard et les coïncidences, puis on a toujours tendance à y accorder un signe, un symbole, un message avec ces coïncidences-là. Mais il reste que des fois, ce n'est que le hasard. Ce qui nous laisse en doute ici, c'est beaucoup d'événements mystérieux qui, accumulés ensemble, nous donnent l'impression que c'est le diable qui agissait derrière, ou en tout cas une entité... puissante et mystérieuse qui agissait dans l'envers du décor, disons, qui est autant d'accidents d'avion, qui est autant... Hey, quand est-ce que le tonnerre frappe deux fois au même endroit? Ça n'arrive pas.
Moi, c'est
mais
ça
c'est
que...
pas vrai que ça arrive jamais.
C'est ça. Moi, c'est ça que je trouve le plus surprenant, en fait, dans cette histoire. C'est que je parlais de Poltergeist au début,
ouais,
où on était sur des petits événements... prévisible, parce que voilà, les maladies, les personnes qui peuvent mourir, voilà, d'un choc dû à une maladie, ça c'était assez prévisible et surtout c'était assez étalé dans le temps. Là, ce qui est vraiment curieux avec le film La Malédiction, c'est que tout est imprévisible. Je veux dire, la foudre qui frappe à un endroit, des accidents d'avion, tout ça c'est des choses qui ne sont pas prévisibles et qui sont resserrées sur environ un an, donc c'est plutôt une courte
exact
période de temps. Parce que voilà, pour la saga Poltergeist, on part sur presque une dizaine d'années, hein, si on regarde
La Malédiction. Oui, c'est ça. Donc, on associe à la malédiction pendant, sur Poltergeist, on associe à la malédiction des meurtres qui ont eu lieu 10 ans plus tard. Là, c'est comme, ben là, je pense que c'est poussé un peu ça, la légende. C'est pour ça que je crois pas au Poltergeist. Mais ce qui rend la légende de The Omen si troublante, c'est comme tu dis, c'est que tout s'est passé dans la même année, durant le tournage.
C'est ça, voilà, qui est intéressant. Alors, pour moi, aujourd'hui, le degré de mystère reste quand même, je vais dire moyen, parce que ça fait quand même beaucoup de coïncidences, et comme tu le disais, auxquelles on essaie de donner du sens en créant cette légende, et surtout qu'il y a vraiment un côté marketing assumé, puisque la plupart des anecdotes que j'ai racontées à la suite, pour la plupart, j'en ai entendu soit dans des interviews qu'ont donné les membres de la production, soit carrément dans le bonus DVD de The Omen, qui est disponible, je pense, sur YouTube. Enfin, moi, je l'ai trouvé sur YouTube, par exemple, mais où on voit en fait les membres de l'équipe, les producteurs et le réalisateur parler du film et de ce qui s'est passé pendant le tournage. Et en fait, c'était une petite featurette qu'il y avait sur le DVD qui s'appelait, je crois, genre Malédiction ou Coïncidence. Et justement, eux-mêmes se posent la question et en jouent beaucoup dans le marketing du film. Donc voilà, peut-être qu'il y a des choses qui ont été exagérées. Mais en tout cas, c'est vrai que voilà, pour moi, le degré de mystère reste quand même moyen, puisqu'il y a le fait que ce soit imprévisible et resserré sur aussi peu de temps, ça reste quand même un petit peu étrange. Mais l'affaire reste, pour moi, classée. J'ai du mal à croire à une vraie malédiction. Pour moi, c'est juste une série de coïncidences. Après, voilà, c'est ma manière de voir les
Effectivement.
Choses.
Effectivement, mais comme tu dis, c'est d'un niveau moyen, c'est-à-dire que les coïncidences sont particulièrement marquantes. C'est difficile de nier qu'il y a quelque chose qui s'est passé, mais de là à accorder cette histoire-là à l'acte du diable en personne, je pense que c'est poussé un peu trop loin. Mais il y a clairement un niveau de mystère qui reste au niveau de cette histoire-là.
Mais en ce qui nous concerne, je pense que l'affaire, aujourd'hui, est classée.
Effectivement. Le triste destin de Peg Entwistle. Donc, la mise en situation est simple. Peg Entwistle, une actrice d'Hollywood, serait la première femme à s'être suicidée du haut des lettres de l'enseigne célèbre de Hollywood sur la colline, et on dit aujourd'hui qu'elle hante toujours les lieux. Donc, le 18 septembre 1932, la police de Los Angeles reçoit l'appel d'une femme voulant rester anonyme, qui rapporte que durant son jogging sur la colline sous la célèbre enseigne d'Hollywood, elle a trouvé des souliers de femme, un gilet et une sacoche. Une note dépassait de la sacoche, la joggeuse l'a lue, et c'était une note de suicide. Elle regarde dans les environs et au loin, à quelques mètres plus bas, elle voit ce qui lui semble être un corps. La note disait « J'ai bien peur d'être lâche. Je suis désolé pour tout. Si j'avais fait cela il y a longtemps, ça aurait évité beaucoup de souffrance. P.E. » La police débarque sur les lieux et au bout d'une heure, retrouve le cadavre d'une femme blonde de 23 ans. On en déduit que la femme a grimpé sur la lettre H de l'enseigne Hollywood, d'une hauteur de 50 pieds ou un peu plus de 15 mètres, pour plonger vers sa mort. Elle serait morte sur le coup. C'est au bout de 2 jours que la police identifie la dépouille comme étant l'actrice Peg Entwistle. Les suicides étaient tristement courants à cette époque à Los Angeles, comme dans le reste du pays. C'était les années de la Grande Dépression, et toutefois le suicide de cette actrice aura marqué Hollywood. Peg Entwistle naît le 5 février 1908 à Port Talbot, à Glamorgan, à Wales. Alors que ses parents étaient en voyage, elle a grandi à East Kensington, à Londres. Dans les années 20, les Entwistle émigrent donc aux États-Unis. Sa belle-mère, qu'elle aimait beaucoup, succombe d'une lente maladie et peu de temps après, son père perd la vie à son tour dans un accident de voiture, tristement un délit de fuite. Elle est prise en charge par son oncle Charles, qui était lui gérant d'acteurs à succès à Broadway. Éventuellement, son frère va quitter pour la Californie, mais Peg, elle, reste sur la côte Est pour réaliser son rêve, devenir une grande actrice avec l'aide de son oncle. Elle commence dans des pièces à Broadway, dont un petit rôle dans la pièce « Ethel Barrymore » en 1925, et son premier grand rôle est dans la pièce « The Man from Toronto ». Elle est aimée de ses collègues qui admirent son talent prometteur et sa grande beauté. D'ailleurs, elle a été une des inspirations pour la célèbre Betty Davis. Peg serait une des personnes ayant donné la piqûre à Davis pour devenir une actrice. Bref, ça s'annonçait bien pour la carrière de Peg, mais elle espérait décrocher des rôles plus stimulants. À l'âge de 19 ans, elle épouse un acteur plus âgé, Robert Keith. Mais le divorce est signé, malheureusement, après à peine 2 ans de vie commune, lorsqu'elle découvre que son mari lui a menti, qu'il avait déjà été marié avant elle, sans lui dire, et qu'il était père d'un garçon de 6 ans. Donc, anecdote au passage, le fils de 6 ans en question est devenu l'acteur Brian Keith. Il a eu une grande carrière au cinéma. Un jour, enfin, donc, elle obtient un premier rôle dans une pièce, une comédie romantique, aux côtés de Humphrey Bogart et Billy Burke. Donc, la bonne sorcière dans... Billy Burke, qui était, en fait, la bonne sorcière dans le premier Magicien d'Oz au cinéma, pour vous aider à la replacer. On raconte que Peg et Bogart se sont fréquentés un bout de temps, d'ailleurs. La pièce fut un immense succès à LA, et Peg ne reçoit que des éloges de la critique. RKO Picture l'approche et il la considère pour un premier rôle au cinéma dans le film Bill of Divorcement. Mais malheureusement, c'est quelqu'un d'autre qui va décrocher le rôle, la célèbre Katharine Hepburn. Peg est malgré tout castée dans le film 13 Women. C'était sa première apparition à l'écran. Malheureusement, sa scène est retirée de la version finale du film, coupée au montage, et on croit aujourd'hui que la raison réelle de cette coupe est l'arrivée du code Hays. Pour vous résumer, hein, c'est que suite aux nombreux scandales d'Hollywood, on aura engagé William H. Hays pour l'instauration d'un code de la décence pour nettoyer les productions cinématographiques et le milieu du cinéma. C'est en quelque sorte le premier code de censure de l'histoire du cinéma américain. Et si on a coupé la scène de Peg, à cause du code, c'est que Peg jouait une lesbienne dans la scène et c'est pas vraiment bien vu en 1932. Comme si c'était pas assez, RKO Pictures a décidé de ne pas renouveler son contrat. Aussi triste que ça puisse paraître, ça a aussi... c'était très commun, en fait, à cette époque-là. Les acteurs et actrices se faisaient couper et réengager sous contrat assez régulièrement. Sauf que Peg était seulement donc une simple employée malchanceuse, coupée parce qu'elle était au bas de l'échelle artistique à ce moment-là. Mais pour la jeune comédienne, ça a été un grand choc et ça se comprend. En peu de temps, elle a touché à son rêve pour se faire finalement couper l'herbe sous le pied. Elle l'a pris durement. Certains racontent qu'elle s'est suicidée suite à des mauvaises critiques à la sortie du film, mais c'est un mensonge inventé par l'artiste anarchiste Kenneth Anger, pour ceux qui le connaissent, dans son livre de 1965, Hollywood Babylon. La preuve est dans la ligne du temps. Elle s'est suicidée avant la sortie du film. La vraie raison, c'est qu'elle était en dépression. D'abord pour avoir perdu son contrat avec RKO Pictures, mais aussi à cause de son divorce. Elle était déprimée depuis qu'elle avait appris que son ex-mari s'était remarié. Donc, lorsque le suicide a été annoncé dans le journal, son oncle a rapporté la disparition de Peg 2 jours plus tôt et il a identifié la dépouille au poste de police. Peg sort de chez elle le 17 septembre 1932 en disant à son oncle qu'elle allait acheter un livre et visiter des amis. C'est la dernière fois qu'on l'a vue vivante. Selon son oncle, encore, elle était une femme très émotionnelle et impulsive. Il est fort probable que son suicide n'ait été qu'un coup de tête, simplement. Elle avait toujours été fascinée par l'enseigne de la colline d'Hollywood. 4 jours plus tard, ses funérailles ont lieu au salon mortuaire W.M. Stratters d'Hollywood. Elle est incinérée avant d'être enterrée dans le cimetière Oak Hill de Glendale, dans l'Ohio. Une histoire de rêve déchu, comme on en connaît tous. Toutefois, si Hollywood ne l'a toujours pas oublié encore aujourd'hui, c'est qu'on raconte que Peg Entwistle n'est jamais partie entièrement. On dit que son esprit hante encore l'enseigne d'Hollywood, incapable de s'éloigner du plus grand symbole de son rêve perdu. Les histoires de hantise débutent en 1940 alors que la lettre H de l'enseigne s'effondre sans raison. Les rumeurs ont donc commencé à se propager que le fantôme de Peg hantait la structure. Depuis, plusieurs personnes, que ce soit des randonneurs, des touristes ou même des gardiens, ont rapporté avoir vu l'apparition d'une femme habillée de vêtements anciens. Et à chacune de ces apparitions, l'air ambiant se remplit d'une forte odeur de fleurs gardenia. Le parfum favori de Peg. La plus récente apparition bien documentée a lieu en 1990. Un jeune couple de randonneurs aurait été pétrifié par l'apparition d'une jeune femme blonde qui semblait très désorientée, puis au bout d'une minute, la femme se serait évaporée devant leurs yeux. Il y a aussi un autre rapport d'une certaine Devin Morgan, résidente de Beechwood Canyon. Lors d'une randonnée, elle remarque une femme au loin sur un des sentiers. Elle a raconté l'avoir trouvée très étrange, comme vaporeuse. Au lieu de marcher, elle semblait glisser. Elle précise qu'elle ne flottait pas et n'avait pas l'air de l'idée qu'on se fait d'un fantôme. Mais elle était tout de même très étrange, comme floue et sombre. Elle mentionne aussi le fort parfum des fleurs gardenia dans l'air. Puis la femme a disparu tout doucement en l'espace de quelques secondes. Donc, est-ce vraiment l'apparition de Peg Entwistle? Est-ce simplement une superstition ou un coup publicitaire touristique? Hein? Il existe aussi d'autres coïncidences troublantes à cette histoire-là. Le précédent mari de Peg, Robert Keith, a une belle-mère qui s'est suicidée. Mais surtout, il s'est lui-même suicidé en 1997, 10 semaines après le suicide de sa propre fille. Donc, dernier détail troublant de cette triste histoire, c'est qu'à peine quelques jours après le décès de Peg Entwistle, elle reçut une lettre à sa résidence d'Hollywood, lui offrant un rôle au théâtre, une pièce dans laquelle son personnage se serait suicidé à la fin. Donc, ça reste ce qui m'intéressait dans cette histoire-là, c'est le classique. La classique histoire d'actrice déchue qui réussit pas à Hollywood, réussit pas à réaliser son rêve. On parle de cinéma, on pense entre autres au film de David Lynch, Mulholland Drive, qui décrit exactement ce type de tristesse-là, c'est ce type d'actrice qui réussit pas à faire son chemin à Hollywood. C'est ce qui m'a fasciné a priori avec Peg Entwistle, mais après ça, bon, les apparitions fantomatiques, j'ai de la misère à y croire personnellement. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de ton côté?
C'est toujours compliqué, les histoires de fantômes, à y croire ou pas. On a toujours, c'est plus une question de croyance, finalement, sur les fantômes. Ouais, là-dessus, j'ai toujours l'impression que... Enfin, c'est la manière dont je vois souvent ces histoires-là. Après, bien sûr, je pense que si un vrai fantôme apparaissait devant moi, j'y croirais. Mais j'ai plutôt tendance à imaginer les fantômes comme des représentations de ce qu'on pense, comme des... On essaye de donner forme à des idées, tout simplement. Et c'est vrai que là, je prends par exemple le mythe des autostoppeuses fantômes, donc les fameuses dames blanches qui disparaissent. C'est souvent un message sur les dangers de la route, sur faire attention, quand on conduit, parce que c'est ce que dit le fantôme, aller moins vite, etc. Là, j'ai l'impression que ce fantôme-là du Hollywood Sign est là pour représenter justement le rêve déchu hollywoodien, est là pour rappeler quelque part que c'est pas parce qu'on veut percer Hollywood qu'on va réussir, et qu'il y a aussi une facette sombre d'Hollywood, que c'est pas juste ces grandes lettres qui sont affichées en haut sur la colline, c'est pas uniquement la gloire, mais que ça cache aussi parfois, malheureusement, des histoires beaucoup plus sombres. Et pour moi, le fantôme du Hollywood Sign, c'est un petit peu la représentation de ça. Et donc c'est pour ça que la légende prend, j'imagine.
Effectivement, et je trouve aussi particulier que la légende débute, je pense, là, j'ai pas la date par cœur, mais presque 10 ans après le suicide de Peg, parce que le H s'effondre. Je sais pas si vous êtes déjà allé à Hollywood. Moi, non, mais on m'a souvent mentionné que l'enseigne d'Hollywood, qu'on trouve tellement glamour, en réalité, c'est du plywood. C'est des petites planches très ordinaires qui tiennent sur un petit rack en métal. c'est un peu cheap.
Je te le confirme. Je te le confirme. Pour être allé à Los Angeles plusieurs fois, je peux te le confirmer. Et effectivement, en fait, c'était. Je pense qu'à l'époque où Peggy se suicide, ça c'est encore le signe Hollywoodland. Parce que c'était un.
Effectivement.
Parce qu'en fait, Hollywoodland, c'était un promoteur immobilier qui avait installé ça pour vendre des logements sur les collines d'Hollywood. Et donc, ça s'appelait à l'époque Hollywoodland, qui a ensuite, voilà, vu que les lettres tombaient en décrépitude, on a décidé d'enlever les quatre dernières, et on a gardé que Hollywood. Et aujourd'hui, c'est devenu un tel symbole que ce truc qui n'était pas fait pour rester à la base, aujourd'hui, est entretenu, donc on les repeint régulièrement. Mais effectivement, à la base, comme c'était censé être juste une publicité, les matériaux étaient assez cheap, quoi. Donc c'est normal qu'ils s'effondrent au bout d'un moment quand on s'en occupe pas. D'ailleurs, je vous invite à vous renseigner sur l'histoire du Hollywood Sign, parce que c'est hyper intéressant, notamment comment des acteurs qui voyaient ce symbole s'effondrer ont carrément lancé un appel aux dons pour sauver le Hollywood Sign, pour le remettre en état. Ils s'en sont servis de symbole pour des associations et tout. C'est vachement intéressant, l'histoire du Hollywood Sign. Et je ne connaissais pas, avant que tu m'en parles, cette histoire de fantôme. Je ne savais pas qu'il y avait un fantôme qui était attaché à ce symbole d'Hollywood.
Ben, moi, c'est ça que je trouvais fascinant. Tant qu'à parler d'Hollywood, pourquoi ne pas parler de son plus grand symbole? Mais la réalité, c'est que je doute fort que l'enseigne soit réellement hantée. Il est vrai qu'on dit souvent que les fantômes vont s'attacher et rester accrochés à des symboles qui ont été importants pour eux, que ce soit une maison ou un objet. Mais après ça, est-ce que vraiment un fantôme aurait pris 10 ans avant de... Parce que il y a beaucoup de gens qui passent là. C'est un parc, là. C'est un lieu très passant. Les gens font leur jogging là. Il y a des touristes qui vont là. Et pourtant, on a très peu de rapports de cette supposée apparition. Pourquoi? Est-ce que c'est un hasard, des hallucinations, des fois juste un mauvais timing météorologique qui fait qu'il y avait une réelle brume sur la colline, on voyait pas bien à distance, je le sais pas.
Et puis pourquoi il y aurait que ce fantôme-là aussi? Parce que des histoires de rêves déchus à Hollywood, et des actrices et des acteurs qui n'ont pas réussi et qui auraient gardé un chagrin après la mort de ne pas avoir réussi à Hollywood, je pense qu'il y a, malheureusement, il n'y a pas qu'elle. Il y en a eu des centaines, voire des milliers à travers les décennies.
On aurait probablement tous les vendredis soirs des soirées mondaines de fantômes autour de l'enseigne d'Hollywood. Là.
Exactement. C'est pour ça que pour moi, le degré de mystère reste un peu lieu, parce que ce qui m'étonne, c'est qu'il y ait encore assez régulièrement des témoignages.
C'est vrai.
C'est ça qui reste curieux. Mais pour moi, on peut...
Ça laisse un doute.
C'est pour ça que c'est difficile de classer complètement l'affaire sur le volet fantôme, en tout cas. Mais voilà. Après, malheureusement, pour le reste, c'était l'histoire tragique d'une étoile qui n'a pas éclos à Hollywood, quoi. C'est triste. Nous, en tout cas, je pense qu'on va garder le dossier ouvert en attendant la prochaine apparition. Et si jamais il y a une nouvelle apparition du fantôme du Hollywood Sign, on vous tiendra au courant, évidemment.
Et voilà.
Cette session de travail du Bureau des Mystères est désormais terminée. Merci à vous de l'avoir écouté. Est-ce que, Simon, ça t'a plu de raconter toutes ces histoires avec nous?
Ah ben moi, je suis un grand fan de raconter des histoires, qu'elles soient personnelles ou paranormales. Donc moi, ça a été un grand plaisir de participer aujourd'hui. Et je tiens à te remercier, Mathias, pour l'invitation. Je me considère très chanceux d'avoir pu participer au Bureau des Mystères. Merci beaucoup.
Bah, merci à toi d'être venu, surtout.
Oui. C'était passionnant. J'ai appris aujourd'hui des anecdotes que je ne connaissais pas. Et oui, c'était très intéressant.
Et où est-ce qu'on peut te retrouver? Où est-ce que nos auditeurs du Bureau des Mystères peuvent te retrouver, Simon?
Ben, en fait, comme j'ai mentionné plus tôt, j'ai deux émissions. Si le cinéma de genre, en grande partie le cinéma d'horreur, vous intéresse, vous pouvez écouter Les Oubliettes. Ça se trouve au www.lesoubliettes.ca. Ça fait 3 ans maintenant que ça roule, donc on est rendu à 100, je pense qu'on est 130 épisodes, donc vous avez l'embarras du choix. J'espère que ça vous plaira. Et si on reste dans la thématique criminelle, mystère, avec une touche de paranormal occasionnellement, je vous invite à découvrir le podcast Ars Moriendi. Les gens me disent ça souvent, que c'était pas une bonne idée d'utiliser du latin, donc je vais l'épeler.
Oh, mais c'est assez simple, Ars Moriendi.
A-A-R-S espace M-O-R-I-E-N-D-I. Ars Moriendi, c'est du latin qui veut dire l'art de la mort ou l'art de mourir. J'explique dans le premier épisode d'où ça provient. C'est à l'époque du 16e siècle. C'est un livre qui était sorti après la peste noire. Mais ouais, si ça vous intéresse, moi je raconte des histoires scénarisées, accompagnées d'une ambiance musicale et d'occasionnels comédiens pour donner un petit volet immersion aux histoires.
D'ailleurs, si je peux conseiller à nos auditeurs un épisode, j'ai beaucoup aimé récemment celui que tu as fait qui s'appelait Dans la boîte, avec cette personne qui a vécu littéralement dans une boîte pendant des années. Ça m'a foutu des frissons. Donc ouais, je vous conseille cet épisode-là en particulier, mais bon, tout ce qui est chez Ars Moriendi est très cool à écouter.
Ah ben, c'est très gentil, merci beaucoup, c'est flatteur. Mais en tout cas, j'espère que ça va plaire à votre auditoire, bien entendu, mais je pense que oui, je pense que c'est la bonne zone, je pense que c'est le bon auditoire pour ça. Vous pouvez trouver tous les épisodes, bien sûr, au www.arsmoriendipodcast.ca. J'espère que ça va vous plaire.
Et nous, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, sur la page Charles et Mathias, la page Facebook Charles et Mathias, ou sur notre compte Twitter, @BDMlePodcast. Vous pouvez évidemment nous retrouver sur Riviera Ferraille pour retrouver aussi tous les liens, toutes les informations qu'on voudrait vous donner en plus et qu'on a évoquées dans l'émission. Et moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode du Bureau des Mystères. Et d'ici là, faites bien attention si vous passez près du Hollywood Sign.